cris de joie et ses acclamations. C'est au spectacle de lutte de sous-sol d'église dans Hochelaga qu'on les entend et auquel je m'apprête à assister. Et ça, c'est la présentation d'un lutteur que je suis en train de pas mieux comprendre que vous présentement. Vous êtes à l'écoute de Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, on va parfois faire semblant comme le Big Fat Seb qui embarque sur le ring en ce moment. Parce que cette semaine, on tourne autour du mot « faux ».
À voix basse, les ministères refortifient les frontières. Je m'en remets à vous, stratèges en nos propres terres. De l'or à leur revolver, de l'or à notre cou. C'est ainsi qu'on dira. Passer les repères pour salir nos routes prospères. Et j'ai remisé au passage les amants dans le paysage. Les lunes ne seront pas les mêmes de ce côté de la fabrique. Tout semble pareil au mythe, les amoureux trop romantiques. Allons-y tisser des rêves, nos espoirs transatlantiques. Au nom de la République, les amoureux mathématiques. Au loin, le ciel s'illumine de constellations fragiles et d'or à notre cou. Demain, je reprends les armes et le valeureux vacarme des flammes à mes cailloux. C'est ainsi dira. Aux enfants mort-nés de nos mères qui voleront par-dessus terre, garde comme une pierre précieuse chacune de ces phrases copieuses pour réveiller en nous la lumeuse, la putain des soirées malheureuses. Allons-y, tissons des rêves, nos espoirs transatlantiques. Au nom de la République, les amoureux mathématiques. Les amoureux mathématiques. Les amoureux mathématiques. Les amoureux mathématiques.
De musique et du mot faux, on a tout de suite pensé que Jérôme Minière était la personne parfaite. Pas que ce soit quelqu'un d'artificiel ou de fake, vraiment loin de là. Mais tout d'abord, il y a une chanson et même un disque qu'il a intitulé Le vrai, le faux, un disque qui est sorti en 2010, Mais aussi, Jérôme Minière a un faux jumeau, un double qui n'existe pas, une deuxième identité, Hiricoptère. En 2001, Minière faisait paraître le disque instrumental « Jérôme Minière présente Hiricoptère ». Dans la pochette, on pouvait y lire que Hiricoptère était quelqu'un qui venait du Lanka, un pays maintenant disparu à cause du réchauffement de la planète, et le texte était aussi traduit en lankais, une langue inventée pour l'occasion. Puis en 2004, c'était au tour du disque chez Hiricoptère, où Copter, maintenant riche PDG d'une multinationale, invitait Jérôme Minière à enregistrer un disque pour sa compagnie. Et ensuite, le personnage fictif a fait faillite, est disparu dans la brume et Jérôme Minière a fait plusieurs albums sous son propre nom, dont Le Vrai Le Faux. Mais Hiricoptère est de retour cette année avec un disque intitulé Quelque chose de rectangulaire qui va sortir le 2 avril prochain.
Le pseudonyme lui-même a été inventé en 1998. À l'époque, c'était vraiment une période où moi j'écoutais beaucoup de musique électro allemande, puis des trucs un peu plus pointus. Puis il y avait cette vague de beaucoup de pseudonymes. C'est-à-dire, au fond, à chaque fois qu'on explorait un style, on avait un nom différent. Donc il y avait des types qui avaient 5-6 noms, etc. Et donc moi, c'était un de ces noms-là. On avait même fait des faux disques à l'époque. C'est-à-dire que c'était avec un ami qui s'appelle Eric Matson. Et à l'époque, il avait le fantasme de créer un label. Et donc au départ, vers 1998, on a ouvert un site internet. Et il y avait des fausses pochettes. Des fois, on pouvait écouter un petit extrait parce qu'en plus, à l'époque, l'internet n'était pas très très rapide. Mais on jouait sur l'esthétique d'un faux label, en fait. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. Et Hiricoptère est le pseudonyme sous lequel j'ai commencé vraiment à inventer des musiques. Donc c'était tout ce qui était plus expérimental, plus minimal, plus atmosphérique. Ça a donné le premier album en 2001 qui était vraiment un album ambiant, en fait, de musique ambiante. Et alors là, je me suis laissé prendre au jeu. C'est devenu plus qu'un pseudonyme. C'est devenu une fiction. Et de fil en aiguille, j'ai été pris avec ça à travers les années jusqu'à aujourd'hui. Et je dois avouer que c'est ça cette année. Ça a été une année délicate pour Hiricoptère. Parce que je me suis retrouvé, comment dire ça, piégé moi-même en fait. Au fond, c'est que tout simplement, le fait que le temps a passé, moi-même, je me suis penché sur l'histoire, c'est-à-dire moi-même, j'ai eu un pas de recul, et un espèce de petit recul, et je me suis dit, OK, c'est ça l'histoire, j'ai inventé un nom, mais finalement, je voulais tellement que ce soit de la fiction, puis j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc, moi-même, j'étais pris un peu de vertige, en fait. Qu'est-ce que je fais après ça? Parce que avant ça, j'ai eu toutes sortes d'idées depuis 2006. À un moment, je me suis dit, je vais faire un album vert, juste sur l'écologie. J'ai eu, après, un autre projet qui s'appelait Écosystème. Donc, il y a eu plein de projets avortés autour d'Hiricoptère, et c'était jamais tout à fait ça. Et plus ça se faisait pas, plus mon fantasme était grand. Et donc, plus c'était dur de faire quelque chose, une suite. Voilà, ça, c'est le résumé.
Mais la question de départ était, mais pourquoi en avoir mis... mais c'est quand même intéressant. Mais pourquoi en avoir mis autant au lieu de juste prendre un deuxième nom. Qu'est-ce qui a emmené vers justement cette démesure-là d'histoire jusqu'à te faire emporter toi-même?
C'est pour ça que je te dis que la question, je suis en train de la... Elle m'a amené jusqu'à au jour d'aujourd'hui puis qu'elle était très difficile à trancher. C'est qu'au fond, c'est vraiment par rapport à mon histoire personnelle. C'est que j'ai étudié en cinéma, puis j'étais spécialisé en scénario. Et le lien entre tout ce que je fais, souvent, c'est les histoires. C'est mon amour de la fiction. Et quelque part, Hiricoptère, c'était pour moi le moyen d'aller plus loin dans la fiction, aller dans des zones où je me serais peut-être pas permis d'aller là, juste sous mon nom. Donc, au fond, c'est mon si on traduisait Hiricoptère dans ma langue à moi, ce serait désir de fiction, en fait. Sauf qu'avec Le Vrai Le Faux, justement, l'album Le Vrai Le Faux... C'est comme si j'ai réendossé la fiction aussi en mon nom. Bref, c'est compliqué, hein? C'est un peu schizophrène comme histoire, là, mais...
Mais ce que je comprends, c'est que tu n'es pas capable de t'empêcher de raconter des histoires.
Oui, et que, personnage ou pas, je m'aperçois que les histoires sont là, et c'est peut-être la chose la plus importante pour moi, parce que je ne suis pas venu à la musique, parce que, par exemple, je ne me suis pas mis à chanter des chansons, parce que je me disais, ah, j'ai une belle voix. C'est vraiment pas ça. J'aimais même pas ma voix, c'était juste un outil, parce que j'avais des trucs à raconter. Je me suis dit, je vais faire un disque sur l'économie de marché, c'est vrai que je trouvais ça génial d'avoir un nom pour une compagnie. Donc voilà.
Mes meilleurs amis sont les meilleurs produits. dans leur catégorie. Et la poésie et la philosophie, les meilleurs produits.
À partir du moment où je présente quelque chose à des gens, qu'il y a des communications, il y a quelque part quelque chose de faux, il y a un personnage, il y a même une fictionnalisation. Moi, je prends un exemple tout bête, mais je suis un peu naïf, mais quand j'ai fait donc commencé à faire des disques il y a une quinzaine d'années, la première fois qu'on a eu donc qu'on a fait un communiqué, qu'on a envoyé à la presse, que j'ai fait mon premier disque, j'étais surpris à quel point c'était repris ce qui était écrit dans le communiqué.
Tel quel.
Souvent, ou des thèmes, et que donc, au fond, on orientait de toute façon l'écoute, puis la façon dont ça allait être présenté. Donc, c'est ça. Ça revient à ce que je racontais tout à l'heure, finalement.
Il y a une manipulation. Il y a un jeu sur la vérité.
Sauf que je pense qu'on est arrivé à une ère post ça. C'est-à-dire que ça a été tellement intense, on était tellement loin, et on a tellement aussi des outils puissants que de toute façon, tout le monde communique. C'est-à-dire, avant, ça s'appliquait, bon, parce que tu faisais un disque ou tu faisais un livre, mais de toute façon, maintenant, ça s'applique à l'intime. Ça s'applique à ton téléphone, à Facebook. On est tous...
Tous mis en scène.
Oui, mais ceci dit, c'était vrai avant, dans le sens que je pense qu'avant les machines, tu sortais dans un bar, t'essayais de mettre une belle chemise ou je sais pas, ou de parler d'un truc intéressant, c'est pas différent. C'est normal, au fond, c'est une représentation, c'est comme une scène, puis on veut avoir un rôle correct dans cette pièce-là.
J'ai acheté un très bon micro pour vous dire ces quelques mots, et je pensais qu'en chantant ce couplet, ma voix sonnerait Billie Holiday. Oui, la musique c'est des mathématiques, oui, j'ai fait tous les calculs, mais il faut croire que je manquais de recul, que je manquais de recul. J'avais tout prévu pour réussir, mais je n'avais rien à vous dire, rien à vous dire. J'ai tout bien fait, mais tout compte fait, mais tout compte fait. Ma chanson est toujours aussi nulle, toujours aussi nulle.
C'est pour ça que je dis que ça s'est rejoint après sur l'album Le Vrai Le Faux, c'est que sans masque, donc sans utiliser pseudonyme quelque part, sur une chanson justement comme Le Vrai Le Faux, je me suis posé la question des histoires, du pouvoir des histoires. C'est-à-dire que même si une histoire souvent est fausse, et une fiction et un mensonge dans un sens absolu, au fond, elle a le pouvoir qu'on lui donne. Dans un monde relatif, il n'y a pas d'absolue vérité, et donc tout peut être pris comme une fiction ou une histoire. Et à l'inverse, moi, ça m'avait beaucoup frappé, par exemple, les campagnes de Barack Obama, quand il y a eu le 11 septembre et puis toute l'espèce de campagne pour qu'il y ait la guerre en Irak, à quel point c'était un travail de fiction, c'est-à-dire il y avait vraiment des gens qui travaillaient en communication pour communiquer un scénario précis. Donc c'est l'inverse du cinéma d'Hollywood, mais ça revient au même, c'est-à-dire qu'en fait on écrit un scénario qu'on va essayer de transmettre et qui va modifier le cours de la réalité, finalement. Cette chanson-là, c'est un petit condensé de ça, mais dans une chanson de 3 minutes, donc c'est pas une thèse, là.
Moi, ma vision, c'était je la voyais un peu comme la distance qu'il y a entre ce qu'on a vécu puis ce qu'on décide de se rappeler ou ce qu'on se raconte de ce qu'on a vécu.
Mais c'est ça aussi, dans le sens où, si on le prend dans un sens peut-être plus intime, c'est... au fond, de toute façon, si on étudie même nos fonctions cérébrales, on est déjà devant une représentation, une reconstitution par notre structure, par notre cerveau, finalement, d'une réalité. Donc, à chaque seconde, notre cerveau filtre des milliards de données, peut-être pas des milliards, mais en tout cas, filtre beaucoup de données, puisqu'il coupe des sons indésirables. Puis voilà, on est en train de se parler, puis bon, mon cerveau coupe les sons d'oiseaux parce que ça dérange, puis ci, puis ça. Puis ça, on s'en aperçoit juste, par exemple, en faisant un enregistrement, tu as déjà vécu ça. Si tu réécoutes la bande après, tu entends toutes sortes de trucs que tu n'entendais pas au moment où tu as fait l'entretien parce que ton cerveau faisait le tri, etc. Donc je pense que la réalité absolue n'existe pas, quoi.
Cette langue est très mélodique, mais c'est un peu triste. Vous n'y comprenez rien. Vous qu'un touriste. Et toutes vos photos sont floues, même celles où vous posiez debout, devant ce très beau monument, dans le soleil couchant. Vu à la télévision, un homme de 40 ans aurait trouvé un corbeau blanc sans trop savoir comment annoncer aux informations deux ou trois mots à la radio et sur internet une tempête d'images, un faisceau. Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. La place grouille de monde, vous vous arrêtez une seconde. Nous ne sommes que des fourmis, et la réalité est plus dure, et la réalité est moins pure que sur des brochures que l'on distribue à l'entrée. Plusieurs fois vous hésitez, le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Et du matin au soir, nous nous racontons des histoires. Et du matin au soir, nous écoutons des histoires. Sans savoir ce qu'il faut croire, c'est dans la machine, c'est dans votre tête. Parfois tout est si flou.
Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, mais non, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir.
Et du matin au soir, nous racontons des histoires. Et du matin au soir, nous écoutons des histoires. Fermez les yeux pour voir, une pensée se promène. Ici allume une lampe, tout contre votre tempe.
Le vrai, le faux, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir.
On ouvre les yeux, on les ferme, l'histoire a lieu dans nos pensées. On examine un souvenir et l'on peut se dire, l'as-tu vécu, l'as-tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts, avais-tu les yeux fermés? L'as-tu vécu, l'as-tu rêvé? Avais-tu les yeux ouverts, avais-tu les yeux fermés? Le vrai, le faux se touche dans le noir, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux se touche dans le noir, car oui, vraiment, on ne peut pas tout savoir. Le vrai, le faux.
Connaissez-vous l'affaire Brunswick?
L'affaire Brunswick? Non.
Non, j'ai jamais écouté parler de cette affaire-là.
D'après les commentaires qu'on a pu en avoir, je crois que ça a été assez grave comme affaire.
Et ça ne devrait pas se reproduire une autre fois.
Entre juillet 1964 et avril 1965, plusieurs personnes sont prises d'une envie irrésistible d'acheter en grande quantité certains produits. Une dame se procure des caisses de détergent à lessive. Un homme sans voiture achète une quantité folle de pneus. Mais que se passe-t-il?
Tous, sans exception, avait regardé à cette époque un appareil de télévision de marque Brunswick. Cet appareil a toutes les caractéristiques d'un téléviseur ordinaire, mais un minuscule dispositif électronique, ingénieusement dissimulé, lui confère des pouvoirs inimaginables.
Une puce cachée dans le téléviseur et qui émet des ondes, poussant les gens à acheter.
Marcel Gingras, concierge, a failli y laisser sa peau.
Ma journée de travail était terminée. Je me souviens, comme c'était hier, j'étais justement ici. Puis là, il y a une bouteille d'huile qui est tombée après deux pieds de moi. Personne n'est autre que le bon était un peu plus loin. Là, j'ai regardé en haut l'escalateur. Bon, là, il y a une vingtaine de bouteilles qui ont déboulé.
Madame Lucille Graton fut tenue responsable de cet incident. Les sacs qu'elle transportait ont cédé et les 22 bouteilles d'huile à salade de marque Dora se sont écrasées deux étages plus bas.
J'aurais pu me faire estropier et même me faire tuer.
Tous, sans exception, avaient manifesté une surexcitation sensorielle causée par des ondes électromagnétiques à charge aliénodique positive. Ces ondes avaient dû être émises par un appareil de télévision muni d'un dispositif spécial.
Dans le cas des personnes dont le niveau économique était suffisant, il n'y avait pas de problème. Mais qu'advenait-il dans le cas des personnes que l'on appelle la classe laborieuse? Il s'en est suivi ce que l'on pourrait s'imaginer. Des vols à l'étalage, des cambriolages, des émeutes. Pire encore, les forces de l'ordre ont été mises en échec. Ces braves gens sous l'effet de l'aliénode n'auraient hésité devant rien pour satisfaire aux désirs de leur seuil de consommation. Selon moi, la Brunswick était en avance sur son temps. Et je puis vous assurer que le dénouement de l'affaire aurait été fort différent si l'aliénode était apparu quelques années plus tard, alors que l'usage de la carte de crédit s'était généralisé.
L'affaire, vous vous en doutez bien, a créé un véritable scandale à l'époque. Et c'est pourquoi André Leduc et René Jodoin lui ont consacré un documentaire à l'ONF en 1978, l'affaire Brunswick. Le film a gagné plusieurs vrais prix internationaux et a réellement semé la panique chez certains de ses spectateurs. Ce qui est quand même pas mal pour un film qui raconte une histoire inventée de toutes pièces. Parce que l'affaire Brunswick, c'est le premier mockumentaire au Québec.
Cette semaine au Vox Pop, nous parlons faux pas vestimentaires.
Fashion, faux pas.
Mais c'est quoi ça, fashion, faux pas?
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Les choses de gars, c'est... Premièrement, c'est plus simple que les vêtements de femmes. Nous autres, le sous-vêtement, le bermuda, une camisole, de quoi qui est approprié avec une sandale, pas de bas, c'est beau, avec un pied propre, pas de corne, rien. Pour ça, dégueulasse des bras.
Comment je pourrais dire ça?
Pour moi, en tout cas, là, c'est quand quelqu'un a une belle robe avec des bottes. Tu sais, comme des bottes de construction, là. Je trouve pas ça joli. Ça dépend des cils, leur marque, là. Tu sais, je veux dire, il y en a que... Comment je pourrais dire? C'est leur style, eux autres. Mais je trouve pas ça vraiment beau, moi. Ça, je trouve que c'est un style spécial. Un beau talon haut, ça fait une belle jambe, puis tout. Il me semble que c'est plus beau. La remarque pour les jeunes, c'est correct, la robe et les bottes de construction, mais des fois, ils sont très, très bien habillés d'en haut, mais le bas suit pas.
Moi, c'est des toupettes crêpées. Oublie ça. Des toupettes chou-fleurs, c'est comme... Non.
Le legging, c'est affreux. C'est affreux, ça va pas bien tout le monde. Malheureusement, beaucoup de personnes assez grassettes portent ça, puis je trouve ça affreux. Les bourrelets, la cellulite, tout pareil. J'en ai à mon travail, c'est pour ça. Fait que c'est comme... Non, je le porte pas, puis je le vois pas sur d'autres.
I think leather pants, leather skirts, they just look... greasy and sleazy to me. Now there's that's an old fashion, but
rockstar fashion.
Maybe it's because Mick Jagger wears them and I don't like his face.
Des affaires que tu trouves laides,
finalement. Ah, blond sur le dessus puis noir en dessous, là, je suis plus capable. Je sais pas, là, mais je suis plus capable.
Couleur de Hochelaga, là.
Ouais. Les clients disent, hey, c'est la grosse mode. Là, je leur dis, sortez de Hochelaga, hein. C'est qu'à Hochelaga qu'on voit ça.
Je l'ai acheté parce que je l'aimais.
Alors les autres, s'ils n'aiment pas ça, regarde le bord de la rue. Voilà.
Je suis pas le premier Éric, je suis Éric 2. Ça, c'est drôle. C'est comme tu sais, Georges 2, Georges 3. Mais c'est ça, je suis Éric 2, mais je suis le premier non-européen depuis 1748 à remporter ça. Fait que, beau mentir qui vient de loin.
Vous écoutez Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. Et cette semaine, croyez-nous, croyez-nous pas, on tourne autour du mot « faux ». Éric Michaud est conteur et menteur professionnel. Il peut même se vanter du titre de « roi des menteurs ». Enfin, si vous le croyez.
Ben, en fait, c'est arrivé en 2009 en France, à Montcrabeau, un petit village dans le sud-ouest de la France, dans dans Lot-et-Garonne, en pleine Gascogne, où est-ce qu'ils font un concours de menterie depuis 1749, pas 1900, là, 1749. C'est le plus vieux concours au monde connu. Et en même temps, ils ont fondé une académie des menteurs qui existe depuis 1749, qui à chaque année couronne un roi des menteurs de la francophonie. Alors, les participants vont là, on a une dizaine de minutes, raconter notre menterie devant l'académie des menteurs et devant le public. Mais c'est l'académie des menteurs en bout de ligne qui vote. Alors, eux, on a chacun un sac, les participants. Et puis, l'académie met des cuillères de sel dans le sac, entre 2 et 10 cuillères, dépendamment qui ont aimé ta menterie. Puis là, ben, celui qui en a eu le plus dans son sac, c'est pesé au gramme près, là. Celui qui en a eu le plus dans son sac est proclamé roi des menteurs de la francophonie pour l'année. Moi, j'avais raconté une menterie sur comment j'étais venu en Gascogne pour boire de l'Armagnac, pour me guérir. Et puis, le prix, c'était quoi? C'était une bouteille d'Armagnac, pour vrai. Mais elle était trop grosse. Plus grosse que ce que permet les douanes. Fait que j'ai été obligé de mentir aux douanes. Quand j'explique mon histoire de Montcrabeau, là, que j'ai gagné Roi des menteurs là-bas, puis tout ça, il y en a qui croient même pas que c'est vrai, ce concours-là. Il y en a qui pensent que j'ai inventé ça pour me donner un titre. T'sais, comme quelqu'un se donne un titre de roi de la patate au coin de la rue. T'sais. Il n'est pas vraiment consacré roi de la patate. Il y en a plein, roi de la patate. Mais moi, c'est un vrai titre, puis les gens, des fois, hésitent. Je suis pas sûr, c'est vrai, c'est quel bout qui est vrai, qui n'est plus vrai. Fait que c'est un doute semé socialement et généralement avec les gens. C'est ça qui est un peu drôle.
T'es aussi conteur, c'est quoi la différence entre faire du conte et faire de la menterie?
C'est simple. Maintenant que je donne des ateliers sur la menterie, j'ai moi-même réfléchi là-dessus. C'est que le conte, c'est du fantastique. Hein? Le conte, je peux reprendre de quoi qui est écrit, de quoi de traditionnel, surtout dans le traditionnel. Moi. Tu sais, Tigeant, il tue Géant, il marie la princesse, puis il est heureux. Ça se peut pas. Tu sais, parce que si tu maries la princesse, tu peux pas être heureux. C'est chiale. Mais par contre, la menterie, c'est tout le temps basé sur un fait vécu. Tout le temps basé sur quelque chose, il faut qu'il y ait un doute à quelque part. Ça ne peut pas être dans le fantastique. Je ne peux pas avoir fait un pacte avec le diable dans une menterie. Je ne peux pas m'envoler en canot d'écorce. Je ne peux pas faire de la claquette sur la lune. Il faut vraiment que ça reste dans au jour le jour. Voici ce qui m'est arrivé. C'est à la première personne dans 90 % des cas. Et puis, c'est voici ce qui m'est arrivé ou voici, je vais vous expliquer l'origine de ça suite à mon implication. Et c'est un récit de vie grandement exagéré. C'est ça, une menterie. Mais ça reste du racontage. C'est difficile parce que contrairement à un conte, tu peux partir, ouvrir un livre de conte puis dire « Tigeant et les trois petits lutins », puis le lire, l'apprendre, puis le raconter. Mais une menterie, là, je peux pas. Je suis obligé de l'écrire. Je suis obligé de partir d'une feuille blanche. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Et de mettre de quoi de « OK, je pars de quoi, il faut que je fasse croire ça aux gens », c'est encore plus dur. Tandis que le conte, ben tu sais, on peut... C'est pas grave, on sait que les gens croient pas, que ça se peut pas que Tigeant ait rencontré trois petits lutins. Mais on se laisse s'emporter dans le conte. Tandis que les autres, on est jugés. En partant. Alors, c'est ça qui est beaucoup plus dur.
Là, tu travailles à fonder une confrérie des menteurs au Québec.
Oui, absolument. Ça va être un regroupement de conteurs slash menteurs. Il y a plusieurs concours de menterie au Québec. Hein. On n'est pas loin de 10 concours de menterie au Québec, quand même. J'essaie d'en partir en Ontario francophone. Je vais voir si je peux pas en partir aussi dans les Maritimes. Je vais en voir dans les Maritimes bientôt. Et le but étant de se relier, de partir une tradition au Québec, parce qu'il y a celle-là en France, l'Académie des menteurs. Là, je reviens l'été passé de Belgique aussi, qui a une académie depuis 1853, qui s'appelle la Royale Montcrabeau de Namur. Et ici, ben, on serait dû pour... et on est très bon là. Ceci étant dit, j'ai une collègue, Lucie Buisson, qui, elle, a terminé deuxième au concours de menterie en 2008 en France. Moi, j'ai fini premier. J'ai terminé troisième en Belgique. Alors, on est fort au Québec là-dessus. Il y a des Européens qui sont venus ici, qui ont vu qu'est-ce qu'on faisait. Alors, le but, tu sais, c'est beau suivre une tradition. C'est autre chose d'en partir une. Je pense qu'on est là. Et on va demander au public aussi de s'impliquer. Le site web va être en ligne bientôt. Et puis, on va demander au public de nous donner des noms, de donner des nominations. On veut que le public participe. Et nous, on va faire un gagnant par mois, le menteur du mois, la menterie du mois et le quidam aussi. Donc, les gens du public, mon voisin me dit que, tu sais, et ça, c'est des belles menteries. On veut des affaires là, que les gens là, se sont donnés en cœur joie d'une menterie. Là. Alors, on veut nommer des gens et à la fin de l'année, on va nommer le menteur de l'année ou la menteuse de l'année, la menterie de l'année, le quidam de l'année. Et on veut que les médias s'emparent de la chose aussi pour que ça soit approuvé qu'il y a un sceau confrérie des menteurs. Voici ce que la confrérie des menteurs nomme cette année comme menteur de l'année.
Il y a des gens, d'ailleurs, qu'on voit à la télé très mal mentir ces temps-ci. Tu as déjà pensé à offrir tes services d'expertise?
Bien, c'est drôle, hein? Oui, bien là, c'est parce que là, les médias ne sont pas trop au courant de l'affaire, mais éventuellement, c'est ce qu'on veut. On veut être vus comme des experts, bien pas quand même pas d'une commission, mais quand même dans des émissions de télé. Qu'on soit appelé, consulté, à dire, bon, ben peux-tu nous commenter, toi, qu'est-ce que tu vois là-dedans, puis pourquoi tu penses qu'il fait ça? Puis je pense qu'on va devenir des bons détecteurs de mensonges, puis en même temps, dire, hey, lui, il est vraiment bon. Lui, là, il devrait participer à des concours de menterie. Dans le fond, sans dire bravo, il nous ment en pleine face, mais on veut dénoncer quand même. On veut devenir un peu les Robins des Bois du mensonge. Tu sais, dire, hey, vous faites avoir, regardez comment c'est un bon menteur, il est approuvé par la confrérie des menteurs. Ça vous donne-tu une idée?
Le mensonge, ça a son utilité, d'après toi?
C'est absolument nécessaire. Admettons que tout le monde commence à dire la vérité maintenant. Là, moi, je dis là, que dans 24 heures, il y a une guerre mondiale. Imaginez si tous les chefs de pays commençaient à se dire la vérité, si toutes les ethnies commençaient à se parler puis à se dire toutes les vérités, le niveau de racisme, le niveau de dénigration qu'il y aurait, dénigrement, pardon, et pas rien que ça, il n'y aurait pas de couple. Tu sais, pour séduire, il faut mentir un peu. Et j'irais même plus loin, il y a des menteurs professionnels à qui on fait confiance et qui sont nécessaires. Par exemple, un avocat. On dit, ah, les avocats, ben ils n'ont pas le choix, les avocats. Ils peuvent défendre un client, là, si votre avocat veut vous défendre, il faut qu'il cache des choses. Fait que ça, c'est mentir par omission. Et si on va embellir la vie des fois, là, un petit mensonge blanc, là, ça fait du bien. Ça fait du bien de dire un compliment à quelqu'un qu'on ne pense pas tout le temps, mais qu'on sait que ça va lui faire plaisir, cette journée-là. Ça fait du bien des fois de ne pas tout dire le négatif qu'on pense, puis de mentir des fois.
Écoutez, je vais vous chanter une chanson de mensonge. J'ai pris mes bulles sur ma tête et ma charrue sur mon dos. Et au guégué sur le valier, marions-nous de moi de mai. Je suis allée labourer tout ce qu'il y avait pas de terre. J'ai trouvé un petit rosier qui puisait des noisettes. Et au guégué sur le valier, marions-nous de moi de mai. Je l'ai ramassé, il m'en a tendu une sur le pied. Il m'en a tendu une sur le pied qui m'a cassé la cervelle. Et au guégué sur le valier, marions-nous dans le mois de mai. Je l'ai pris, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans ma marmite. Sont au plancher d'eau, ils s'éclataient de rire. Et au guégué sur le valier, marions-nous dans le mois de mai. On a tombé une sur le foyer, il s'est cassé la cuisse. Je l'ai pris, je l'ai ramassé, je l'ai mis dans ma marmite. Et au guégué sur le valier, marions-nous dans le mois de mai. J'ai invité tous mes amis à venir manger de la cuisse. Tous mes amis sont tous le plus beau guégué sur le valier, marions-nous dans le mois de mai.
Samuel Archibald est l'auteur du recueil d'histoire Arvida qui a gagné le prix des libraires en 2012. Il est aussi un expert sur la question du faux document en littérature et professeur à l'UQAM en études littéraires. Samuel, bonjour.
Bonjour, Lisanne.
Alors, Samuel, d'abord, pourquoi est-ce que tu t'intéresses à ça, ce côté, le côté historique et fictionnel dans la littérature?
Moi, je pense que c'est peut-être là, en fait, que mon côté chercheur rejoint plus le côté écrivain, parce que de la façon dont j'écris, tu sais, je m'intéresse beaucoup aux histoires que les bonhommes, les bonnes femmes racontent. Je m'intéresse beaucoup à la légende, finalement. Puis si tu prends la légende comme genre, c'est exactement ça. C'est-à-dire, la légende, l'histoire que tu te racontes sur le coin du feu, c'est toujours une espèce d'affaire qui essaie de se faire passer pour vrai. Il y avait un tueur à masse de hockey, il y avait une fantôme de... à côté, juste à côté du camp de vacances, et on est toujours, on sait très bien que c'est pas vrai, mais on est quand même en train de mettre ça dans des lieux réels, dans des lieux proches de nous. Et je pense que la fiction, à partir du moment où on commence à l'écrire, à l'imprimer, il y a un processus de domestication. Il y a un moment où on dit, bon, il y a un livre, sur le livre, c'est marqué roman, c'est marqué, il y a des flèches qui pointent et qui disent, ceci est une fiction. Mais la fiction, quand tu la prends au long cours, elle a toujours un petit côté un peu rebelle, un petit peu sauvage, de dire de temps en temps, est-ce que je pourrais pas ruer dans les brancards puis avoir des visées un peu plus féroces par rapport à la réalité, par rapport à ce que j'essaie de vous faire accroire, dans le fond.
OK. Puis est-ce que tu as des exemples de textes comme ça qui étaient fictionnels, mais qui ont voulu se faire passer pour vrai?
Bien, il y en a beaucoup dans l'histoire. C'est-à-dire, avant que nos régies éditoriales s'arrangent un peu, c'était courant au 17e, 18e siècle. Les voyages de Gulliver, par exemple, de Defoe, ont été présentés à l'époque comme des vraies mémoires de marins. Même chose pour les aventures d'Arthur Gordon Pym de Poe. C'est-à-dire, c'était quelque chose de très courant que de faire passer un texte de fiction pour... un témoignage, par exemple, de marin perdu, tout ça. Puis c'était une stratégie, en fait, on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'était du bête marketing dans les termes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on avait un roman avec lequel on savait pas trop comment faire marcher ça, puis on se disait, ben tiens, on va faire passer ça pour un fait vécu extraordinaire. Puis bien sûr, à un moment donné, tu peux pas lire le livre sans te rendre compte. Bon, les Lilliputiens avec les voyages de Gulliver, par exemple, il y a un moment où tu dis, OK, ça a pas de mot à dire bon sens. Mais on le faisait quand même, on le présentait comme ça. J'ai dit Defoe, je me suis trompé. Defoe, c'est Robinson Crusoe. C'est ça. Donc, Gulliver, c'est Suif, pardon.
C'est pas grave, on a compris.
Oui.
Et dans ton cas, toi, Arvida, t'appelles ça des histoires. C'est pas un recueil de nouvelles, c'est un recueil d'histoires. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu dis histoire? Ça implique du vrai, du faux, ça?
Oui, bien, je pense que c'était déjà pour jouer là-dessus. C'est-à-dire, nouvelles, on s'attend d'un certain nombre de choses de la nouvelle maintenant. C'est-à-dire, on s'attend des fois à un dénouement surprise, par exemple. On va s'attendre déjà à ce que ça soit une fiction. C'est la forme courte du roman. Avec histoire, il y a toute une ambiguïté beaucoup plus grande qui peut planer. Je raconte des histoires. Ça fait que déjà, raconter des histoires en anglais, tu sais, telling stories, c'est raconter des mensonges aussi. Mm-hmm. Ça fait que là, il y a quelque chose pour moi qui vraiment roule de ce bord-là, du côté, OK, ça, c'est des histoires. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est pas vrai? Ça, c'est moins clair un peu.
C'est à nous de le découvrir. Oui. Et tu m'avais déjà raconté comment tu fonctionnais pour tes histoires, c'est-à-dire que tu allais voir des gens, ta famille, des amis, ils te racontaient l'histoire et ensuite tu t'embarquais, disons, dans...
Oui, ben je pense que les nouvelles que je travaille comme ça, les histoires que je travaille comme ça, il y a vraiment quelque chose où c'est pas nécessairement que je vais voir les gens, c'est que je suis là. T'sais, c'est les gens que je connais depuis longtemps racontent des histoires, puis quand t'entends une histoire, tu l'entends une fois, tu l'entends deux fois, trois fois, quatre fois, puis à un moment, tu sais, un conteur, mon père, quand il est parti au chalet, par exemple, il raconte des histoires, puis tu peux pas vraiment lui faire choisir laquelle tu vas lui faire raconter. À un moment donné, tu vas dire, raconte-nous donc la fois du tournoi de hockey aux Escoumins, tout ça. Puis dans le fond, il s'en rappelle pas vraiment parce que la fois qu'il l'avait compté, il y a deux ans, tu sais, il était parti sur une ballonne totalement, puis peut-être, il s'en rappelle plus de cette ballonne-là. Ça fait que ça arrivera jamais qu'elle va être aussi bien, peut-être, que cette fois-là. Puis moi, je dis toujours, c'est un peu là que j'entre en scène, dans un certain sens. C'est-à-dire, quand j'entends quelqu'un qui raconte une histoire qui est vraiment, vraiment extraordinaire, là, je suis comme, attends une minute, là. Là, faut que je me rappelle de ça. Et des fois, là, je vais faire comparaître les gens, littéralement. C'est-à-dire, je vais leur demander, ça te dérangerait-tu de me la raconter encore, de me dire qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui l'était pas, mais pas nécessairement, mais tu sais, de me donner les détails. Et là, je prends des notes, puis j'essaie d'en faire une version où elle va être pour toujours aussi bonne que la fois où elle était vraiment bonne.
Et puis dans tes histoires, il y a beaucoup, il y a des créatures étranges, il y a des fantômes, il y a des légendes, il y a tout ça. Et donc, ce que j'ai remarqué dans ton livre, je trouvais, c'était que parfois les personnages préféraient croire finalement à ces histoires-là, en sachant qu'elles sont fausses, mais aiment ça. On aime croire à ces histoires-là, en fait.
Je pense que c'est tout un rapport à la mémoire aussi, parce que quand tu prends toute la dimension fantastique d'Arvida, mon autre grosse source d'inspiration, c'est mes cauchemars, littéralement. Et là, t'as un côté très inconscient là-dedans. C'est sûr que les monstres, les fantômes, ils apparaissent beaucoup à côté dans le livre, à côté de réalité, comme des fois l'inceste, l'abus sexuel, la violence, par exemple. Je pense que ça a toujours été ça, un peu, de toute façon. C'est-à-dire, ces figures-là, les monstres, ils viennent toujours mettre leur visage à la place de quelque chose d'autre, qui est peut-être encore plus laid, finalement. T'sais. Puis donc, ces masques-là, ces figures-là, au moins, dans toute leur laideur, elles ouvrent quand même à un mystère, puis elles ouvrent à une mémoire aussi. Elles nous rappellent un temps où on croyait à ça, où on servait à tout le moins de ces figures-là pour s'expliquer le monde dans lequel on vivait.
Et tu parles de tes cauchemars aussi parce que, outre le vrai et le faux, il y a aussi un glissement là-dedans entre la réalité et le rêve aussi qui arrive quelquefois et qui est assez difficile à distinguer. Pourquoi tu voulais jouer là-dedans aussi?
C'est-à-dire, c'est des obsessions. T'es un peu pris avec ça. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est vraiment un de mes grands thèmes d'une certaine façon. Puis je pense que c'est juste une belle boucle logique, ce rapport-là. C'est-à-dire, à partir du moment où tu comprends que, tu sais, tu peux rêver que tu te réveilles. Et donc, que la frontière entre le rêve et la réalité, ben, c'est un espace que tu peux habiter d'une certaine façon. Ben, là, ça peut être super chouette. C'est-à-dire, au lieu d'être sur le vieux mode, il rêve pas, ou elle rêve pas dans tes histoires, tu peux vraiment jouer sur ce côté-là qu'à la fin, le bilan de qu'est-ce qui s'est passé plus dans les pensées, dans un monde onirique, puis qu'est-ce qui est arrivé pour vrai, va rester en suspens. Puis je trouve que c'est ce que j'aime moi-même quand je fais des rêves, même les rêves les plus affreux. C'est-à-dire, c'est ce moment-là, tu sais, quand tu te réveilles au petit matin, puis il y a un moment où il faut que tu reprennes ton territoire un peu, là, c'est-à-dire, tu sais, que tu réassignes des frontières. OK, ça, j'ai rêvé ça. Tu sais, des fois, tu entends un bruit dans la réalité qui va te réveiller, mais que tu as mis dans ton rêve, tout ça. Ça fait que là, il y a tout ce moment où tu dois faire le ménage, mais où tu es en deux eaux un peu. Puis ça, je pense que j'essaie d'écrire beaucoup sur ces états-là.
Oui, mais dans ce cas-ci, le rêve peut être tout aussi vrai aussi d'une certaine façon, là, parce qu'il empiète sur la réalité, sur la vérité.
Oui, puis je pense qu'il y a tout un côté, si tu regardes dans cryptozoologie, par exemple, c'est le petit gars avec son père qui ont l'air de vivre dans le bois ou de passer en tout cas une bonne partie de leur temps dans le bois. Tu sais, il y a un moment où le rêve, ça devient, ça je trouve que c'est très ancien en même temps, tu sais, ça devient un endroit où aller se poser des questions. Le petit garçon, il pense par exemple à ce qu'il a vu la nuit dernière, donc il se demande quelle bête il a vu sur le chemin, c'est un loup, c'est un lynx, tout ça, puis dans son rêve, il refait le trajet, puis c'est vraiment comme s'il regardait une photo ou s'il faisait vraiment son focus sur cet événement-là, puis que là, il était capable, il se réveille au matin, puis il dit, au final, c'était un loup. Avec là, il y a un moment où c'est presque, tu sais, chamanique, si tu veux, où tu retournes dans ton rêve pour aller chercher des vérités que tu n'auras pas à la lumière du jour.
Ouais, exact. Et je tiens à dire qu'il n'y a pas de nouvelles, d'histoires dans ton truc qui se termine par quelqu'un se réveille et tout n'était qu'un rêve. Ça,
non,
ça n'a rien
y en a
à
pas.
Voir.
J'aurais pu en faire au moins une.
Heureusement, il n'y en a pas.
Je
l'ai
pas.
Et écoute, en terminant, je te demanderai, parce que bon, ton recueil se nomme Arvida, et tes histoires participent aussi à la mythologie d'Arvida, à créer l'origine d'Arvida. Et donc, c'est aussi des histoires vraies, des histoires fausses qui se mélangent, c'est ça?
Oui, j'ai voulu qu'Arvida soit un peu le point central d'une certaine façon. Puis pour moi, c'est ce qui organisait tout, parce qu'Arvida, ce qui est fascinant avec une ville comme ça, c'est que c'est une ville modèle. C'est une des premières villes modèles en Amérique du Nord. Donc, vraiment construite au départ pour les besoins d'une compagnie, les besoins spécifiques d'une compagnie, c'est-à-dire loger les boss, loger les employés de l'usine qui venait de se construire. Puis, tu sais, c'est pas une façon... Tu sais, la légende dit qu'ils ont construit les 300 premières maisons en 135 jours. C'est pas comme ça que les villes se construisent, tu sais, dans la vraie vie ou dans l'histoire. Il y a un côté, tout à coup, il y a rien. Il y a une ville, puis là, il y a des gens qui vont être là, puis qui vont être des Arvidiens, tu sais, puis par la force des choses, ils n'auront pas d'histoire en tant qu'Arvidiens, mais ils ont leur histoire d'où ils venaient avant. Et donc, pour moi, il y avait quelque chose de fondamentalement fictionnel là-dedans. C'est-à-dire, tu sais, quand tu penses à une ville comme ça, c'est sûr que quand tu es là-dedans, la mémoire, les histoires que tu vas te donner vont avoir un côté inventé parce que tout ça commence
parce
très tôt.
Parce que la ville a été créée de toutes pièces.
C'est ça, parce que la ville elle-même est une fiction à bien des égards. Elle est inventée de toutes pièces. Avec, tu vas être obligé de t'inventer une histoire, une mythologie locale de toutes pièces aussi.
Qu'il était joli ton sourire, celui qui te servait à dire que même dans le mauvais temps, on peut toujours être content. C'était avant la grande lessive, le grand ménage de printemps qui voulait nous forcer à rire alors que plus rien n'est marrant. On voit fleurir les faux sourires partout, des gens montrent les dents. Et moi je crois bien que le pire c'est que ça va pas en s'arrangeant. C'est pas beau tous ces faux sourires et tous ces gens qui font semblant. Et moi je crois bien que le pire c'est que ça va pas en s'arrangeant. Il me manque tellement ton sourire pour faire comprendre à tous ces gens que comme un jour on va mourir, il vaut mieux s'amuser maintenant. Mais chanter ça les fait sourire, tu vois, ils se marrent doucement. Qu'est-ce que tu veux ? On les fait rire avec nos airs adolescents. On voit fleurir les faux sourires partout, des gens montrent les dents. Et moi je crois bien que le pire c'est que ça va pas en s'arrangeant. C'est pas beau tous ces faux sourires et tous ces gens qui font semblant. Et moi je crois bien que le pire c'est que ça va pas en s'arrangeant.
De l'histoire « Foyer des loisirs et de l'oubli », lu par son auteur, Samuel Archibald.
Arthur Vining Davis a rêvé Arvida et lui a donné pour nom l'acronyme des deux premières lettres de son prénom et de ses patronymes. Andrew Mellon, l'homme le plus riche du monde, en a financé la construction. Des hommes l'ont dessiné, d'autres l'ont bâti, et les employés de l'Alcan et de l'Alcoa l'habitent depuis. Périodiquement, on évoque l'intronisation éventuelle de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense qu'ils en parlaient même en la construisant. C'est devenu un running gag entre mon père et moi. Quand on passe devant une maison arvidienne envers laquelle les années n'ont pas été tendres, un duplex dont les propriétaires ont peint leur moitié de couleurs différentes ou un gazon entretenu avec laxisme, l'un de nous dit « Celle-là, il serait mieux de ne pas la montrer aux gars de l'UNESCO ». Ils ont recommencé avec ça en 2010. En entrevue, Carl Dufour, un conseiller municipal, a déclaré « Sans Arvida, les Allemands auraient peut-être gagné la guerre ». Affirmation grotesque qui avait au moins un mérite, celle d'être la plus exorbitante exagération de l'histoire d'une ville qui a pourtant vu naître mon père. Il est vrai qu'à peu près tout l'aluminium qui entrait dans la composition du fuselage des avions alliés était produit à l'usine Vaudreuil. Les installations furent protégées pendant une bonne partie de la guerre par des batteries antiaériennes qui faisaient d'étranges totems sur les pelouses autour des bâtisses. Bien entendu, Arvida n'était ni Pearl Harbor, ni Londres, ni même Dresde. Les Japonais et les Allemands auraient eu pas mal de chats à fouetter sur les steppes de Russie ou dans la grande poudrière du Pacifique avant de venir troubler la tranquillité inquiète des gens d'Arvida. Je comprends bien sûr ce qu'a voulu dire le conseiller Dufour, mais il me semble qu'en voulant exhumer l'importance historique méconnue de la ville, il en a profondément dénaturé l'essence. Arvida n'a jamais été une ville au cœur de l'histoire, mais un lieu rigoureusement en dehors. Il n'y avait pas de voleurs à Arvida, enfin pas beaucoup, mais il y avait là, attirés par la richesse du pays, voire réquisitionnés par ses laboratoires, des Anglais, des Américains et des gens des quatre coins de la Terre. De Russie venaient les Marinov, dont l'une des filles, Sonia, est ma marraine. D'Italie était venu le machiniste Dan Belladone, Brian Santoni du bureau emploi, le restaurateur Amato Verdone et le bonhomme Zampieri, qui posait du marbre et du terrazzo et qui était le grand-père des frères Burke. De Pologne venaient Matt Barkowitz, le mécanicien Joe Pollock et le voisin de mes grands-parents, M. Belinac. De Hollande était venu le chimiste Neil van Dalen. De Grèce venait Gus Tektonidis et l'ami de la famille, Vic Kostopoulos. Du Japon venait Frank Watanabe, l'ingénieur. De Catalogne était venu Jordi Bonnet, le temps seulement de réaliser une grande murale sur la façade de l'hôtel de ville. Des pâturages d'Irlande et des Landes d'Écosse venaient, allez donc les démêler, l'autre famille Archibald, les Burroughs, Terry Locke, Neil Balkan, Reedy Smith de l'orchestre Arvida, les Duffy, les O'Doherty et les Fontaine, Teddy Allahan, Eric Lee, le père de Peter Lee, et l'habile menuisier Médéric McLaughlin, père de Popeye McLaughlin et de 14 autres enfants qui se ressemblaient tous comme des gouttes d'eau. J'en oublie évidemment. Tous ces gens étaient venus à Arvida attirés par une version nordique de l'Eldorado, un rêve américain délocalisé de quelques milliers de kilomètres. Ils étaient venus pour oublier des choses, bien souvent, et jamais, au grand jamais, pour se souvenir de quoi que ce soit, et surtout pas d'une guerre.
Lisanne Rouleblanc rencontrait Samuel Archibald, qui nous a lu un extrait de l'histoire « Foyer des loisirs et de l'oubli », histoire elle-même tirée du recueil « Arvida », paru au Cartanier. Samuel Archibald sera également le porte-parole de la Journée du livre et du droit d'auteur le 23 avril prochain.
C'est tout pour nous cette semaine. Dans le champ lexical est une émission de Bruce Willis, Sylvester Stallone et Gandhi. Ben non, c'est pas vrai. Dans le champ lexical est une émission de Joanie Larue, Christiane Campagna et Mathieu Charlebois. Lisanne Rouleblanc rencontrait pour nous l'auteur Samuel Archibald et Annie Rossano nous a offert un de ses savoureux vox pop. Nous, on vous revient la semaine prochaine avec le mot « vitesse ». D'ici là, restez à l'écoute de CIBL Radio Montréal et passez sur notre site web www.danslechamplexical.com pour plus de renseignements sur ce qu'il y avait dans l'émission qui se termine et pour réécouter les vieilles émissions. À la semaine prochaine.